Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Que la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, découvrons ensemble l'activité d'une société spécialisée en IA frugale. Si, si, ça existe. Des devs, des data scientists, des IA ingénieurs prennent un malin plaisir à démontrer qu'on peut développer des projets data et IA en ayant une conscience environnementale. Alors, accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'irruption de l'intelligence artificielle dans nos vies.
Cause commune, 93.1 FM.
Et vous êtes bien sur Cause commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web, toujours, hein, cause-commune-au-singulier.fm, notre app mobile, si vous voulez, bien sûr, le DAB+, et bien sûr sur la FM à Paris 93.1, sur votre plateforme de podcast préférée. Merci, Monsieur Gréco, notre directeur d'antenne, de nous permettre cet espace de liberté, de nous proposer autant de beaux outils pour diffuser sur les ondes. Allez, aidez-nous à partager cette émission sur les réseaux, autour de vous, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, c'est notre seule récompense, et cela nous fait connaître, car ça manipule les algorithmes, et vous le savez, hein ?
C'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA.
Eh oui, vous écoutez Parlez-moi d'IA, et nous entamons avec vous notre quatrième saison. Nous restons toujours préoccupés par l'idée de savoir s'il est possible de développer et d'utiliser une IA d'intérêt général, c'est-à-dire une IA capable de servir des objectifs attachés au commun, au collectif, en s'appuyant sur des modalités techniques durables. En IA, depuis l'aspect de l'AFNOR, on dit IA durable ou on dit aussi surtout IA frugale. Donc il y a donc une spec qui est capable de guider toute âme de bonne volonté sur le bon chemin. La spec est là, mais en pratique, comment fait-on ? Au fil des rencontres, à ce micro, nous avons croisé des techniciens forcenés, solitaires, dans leur université, dans leur collectivité, dans leurs organisations, qui avaient à cœur d'utiliser l'IA et à sa juste place, et pour les bons objectifs. Mais comment fait-on quand on n'est pas soi-même technicien et que l'on veut bien faire ? À qui s'adresser ? Alors, ils sont nombreux, les dealers d'API de modèles commerciaux, qui construiront des systèmes pour vous en appuyant à fond sur le champignon. Il y en a plein LinkedIn, plein YouTube, c'est facile à trouver. Par contre, si vous voulez vous faire accompagner sur un chemin efficace et frugal, ils sont un petit peu moins nombreux. Et aujourd'hui, nous, on a la chance de rencontrer l'un de ces pionniers de l'IA frugale concrète. Il a développé une société dédiée à cet objectif, capable de vous accompagner, d'accompagner votre projet de manière vertueuse. Bonjour, Amiel Citruc.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Alors merci d'être avec nous en studio, dans le studio de Cause Commune. Parlez-moi d'IA, Amiel. Alors, en commençant par votre parcours, parce que finalement, en parlant de votre parcours, on va parler d'IA. Présentez-vous, hein, s'il vous plaît, et puis on va nous dire un peu quelle est votre formation, comment vous êtes arrivé finalement à développer des projets numériques en utilisant de la data et de l'IA, du coup, voilà. Comment vous vous présentez généralement ?
Eh bien, moi, je me présente en disant que je suis un data scientist depuis 10 ans et que j'ai très vite cherché à travailler sur des projets qui étaient d'intérêt général ou en tout cas qui étaient sur des finalités positives, on va dire des sujets data, IA for good,
ouais.
Avec plusieurs expériences. Une expérience d'abord dans la gestion des catastrophes naturelles en utilisant de l'IA non générative pour analyser de l'imagerie satellite et pouvoir déterminer l'occurrence d'un feu ou alors les dégâts causés par inondation. Donc déjà sur des sujets qui sont, on va dire, adjacents à l'environnemental.
Mais déjà avec de la data ?
Déjà avec de la data et avec de l'IA au sens où on l'entendait plutôt à cette époque-là, donc du machine learning, du deep learning. Et ensuite avec une autre expérience assez structurante dans le financement de la transition agroécologique,
ouais.
Il était question dans cette start-up d'estimer l'empreinte environnementale des exploitations agricoles, et là aussi donc mon équipe avait pour mission de construire des outils qui permettaient de faire cette estimation et qui se basaient entre autres sur de l'IA, là aussi appliqué à de l'imagerie satellite notamment.
Permettez-moi de rentrer un peu dans le détail, comme ça on va mieux vous connaître aussi. Donc vous êtes ingénieur de formation.
Oui.
Et j'ai vu dans votre parcours que voilà, il y a un moment donné, après votre école d'ingénieur, on va dire classique, vous décidez quand même de faire une spécialisation data science. Est-ce que vous vous rappelez ce qui, à l'époque, bon, c'était il y a 10 ans, hein, 2016, vous pousse à vous dire, allez, je vais aller me spécialiser dans la data science parce qu'il y a peut-être un truc à... Enfin, qu'est-ce qui vous pousse à aller vers la data science?
Alors, j'ai aussi fait, en fait, après mon école d'ingénieur Sciences Po, parce que j'étais très intéressé par les problématiques qui étaient qui associaient techniques et problématiques concrètes.
Ouais.
Et dans un premier temps, j'ai pensé le faire dans l'autre sens. Je voulais faire de la politique, enfin de la stratégie, la politique spatiale. J'ai fait un stage dans la politique spatiale européenne, à vrai dire.
Spatiale, les satellites. Hein.
Ouais, ouais, tout à fait, très différent de là où je suis actuellement. Enfin, mais au final, je me suis rendu compte que j'étais trop attaché aux maths et trop attaché à la technique.
D'accord.
Malgré bon tout ce que j'ai appris, que j'ai adoré pendant ces études, et c'est ce moment où... alors, le moment précis où je pense que j'ai eu un peu l'effet waouh avec l'IA, c'était quand il y avait Google qui avait communiqué sur Deep Dream.
Ouais.
Donc, comment on pouvait faire ressortir des patterns un peu étranges dans des œuvres artistiques. Vous pouvez voir ça sur Internet. Et je me suis dit, ah ouais, c'est super intéressant. C'était un peu un coup marketing. Hein, c'était un peu à quoi pensent les machines.
Ouais.
Mais je me suis dit qu'il se passait quelque chose. Et donc, ce sujet commençait à émerger. Et la figure du data scientist était présentée comme le métier d'avenir qui allait pouvoir capitaliser. On était en train de parler de big data, ou on finissait de parler de big data et on parlait plus de machine learning. Et donc le data scientist allait pouvoir régler plein de problèmes avec de la data. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis rentré dans cette.
Donc fondamentalement des problèmes politiques. Donc là vous rejoignez quand même les éléments. Et...
En tout cas des problématiques. Moi ce qui alors oui politique.
Au sens large, oui, bien sûr.
Au sens large, mais oui. Moi ce que je voulais c'était pas juste travailler sur quelque chose de technico-technique. Je voulais que ça ait un impact sur...
Et donc, vous disiez que vos premières activités professionnelles en start-up, c'était quand même très orienté. Éco-responsabilité, problématique environnementale. Donc, ça vous a quand même aussi mis le pied dans ce monde-là.
Oui, tout à fait, très vite. Ouais. Et c'est à partir de là que j'ai ajouté une compétence et une meilleure compréhension des enjeux environnementaux aux compétences que j'avais sur technique, quoi.
Finalement, c'est quoi qui déclenche la prise de conscience que l'IA, qui va être un peu promue partout, qui est en train d'exploser, c'est pas la panacée environnementale. Est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce qu'il y a un moment où vous dites, attendez, là, ça fait quand même peut-être 5, 6, 7 ans que je travaille sur ce sujet? Et en fait, c'est un sujet convergent avec ce que vous faisiez, data science, data, IA. Et il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui bloque. Est-ce qu'il y a un fait déclencheur pour vous?
Alors, je me souviens pas d'un fait. Enfin, si, bah, il est très banal.
Ouais.
C'est l'arrivée de ChatGPT, ou en tout cas les mois qui ont suivi. Donc, très impressionné par la technologie. Mais très vite, je commence à me documenter sur la taille des modèles. Et on était sur des modèles qui avaient des millions de paramètres. Avec l'IA pré-générative, pour simplifier,
ou
des centaines de millions. Et là, on est passé sur des choses qui étaient à plus de centaines de milliards, en fait. Et donc, il y a un changement d'échelle qui est très impressionnant. Moi, je suis plongé dans les sujets, on va dire, AI for green, utiliser de la data et de l'IA pour des sujets environnementaux. Et je me dis, mais en fait, il faut retourner le problème, parce qu'il y a un problème ou une problématique de l'empreinte environnementale de l'IA.
On va passer quelques étapes. Et on arrive aujourd'hui à votre société qui s'appelle Terra Cognita. Comment s'est organisé Terra Cognita? Comment vous l'avez organisé, cette société? Combien vous êtes? C'est quoi les profils, finalement, quand on veut faire de l'IA frugale et qu'on veut le proposer à des clients? Comment on s'organise, finalement?
On est 5.
Ouais.
Avec essentiellement des profils, on va dire, d'ingénieurs IA. Mais avec une composante data assez forte, parce que justement, on va le voir, mais dans les techniques de frugalité, il y a aussi l'idée de parfois ne pas passer par de l'IA, et donc il faut quand même pouvoir comprendre tout le terrain de jeu qu'on a avec l'IA. Et on a aussi, et ça c'est important pour nous, un product UX designer, on va dire, quelqu'un qui nous a beaucoup, qui nous accompagne sur tout ce qui est la méthodologie d'analyse critique du besoin, qui là aussi fait partie des bonnes pratiques essentielles de la frugalité, de l'IA frugale.
Oui, finalement, un profil peut-être plus orienté produit.
Ouais. et avec une vraie compréhension du besoin. Enfin, c'est évidemment un profil produit, mais on est très attaché à la recherche utilisateur, on est très attaché à la compréhension du besoin derrière le besoin. On pourra peut-être y revenir ensuite, mais c'est essentiel quand on veut faire de l'IA frugale.
Le portefeuille client, il se répartit comment ? Quels sont les clients qui viennent vous voir ?
Alors, c'est beaucoup, qui viennent nous voir spécifiquement sur la proposition de valeur frugale, c'est beaucoup les collectivités locales,
ouais.
Qui comprennent que c'est un enjeu important. Donc, on travaille avec des collectivités locales. On travaille aussi beaucoup avec des PME et des ETI, notamment au travers d'un certain nombre d'habilitations qu'on a auprès de la BPI et qui font qu'on peut entrer en contact avec ces sociétés qui ne viennent pas forcément dans un premier temps chercher la frugalité pour la dimension environnementale, mais qui très rapidement se retrouvent avec des problématiques de maîtrise des coûts, de souveraineté éventuellement. On travaille par exemple un certain nombre de sociétés dans l'industrie qui ont des gros enjeux à ce niveau-là, qui font qu'il y a une résonance assez forte avec ce que permet la frugalité, parce que bon, on va le voir, il y a quand même beaucoup de co-bénéfices à ce type d'approche.
Allez, rentrons dans le vif du sujet, vous avez raison. Finalement, c'est quoi votre méthodologie je parlais en introduction de la spec IA frugale. C'est quoi votre méthodologie finalement de travail au sein de Terra Cognita?
Ben, je parlerai d'une méta-méthodologie.
Ouais.
En gros, nous, le livre de référence, c'est le référentiel général pour l'IA frugale,
ouais.
La FNORSPEC, qui donne une trentaine de bonnes pratiques pour pouvoir faire de la frugalité, qui sont réparties à différents niveaux. Et nous, ce dont on s'est rendu compte assez rapidement, c'est que toutes ces bonnes pratiques étaient super intéressantes, qu'elles pouvaient toutes apporter à différents niveaux du projet quelque chose de plus frugal, mais qu'il y avait encore du travail d'orchestration et de structuration de ces bonnes pratiques pour pouvoir les appliquer. Et c'est pour ça, du coup, qu'on construit des méthodologies qui rassemblent des bonnes pratiques et qui permettent de les agencer de la bonne manière pour avoir des bons résultats.
Déjà, première confirmation, parce qu'on avait reçu Juliette Fropier ici au moment de la sortie de la spec IA frugale, qui est encore une fois une spec très riche, qui donne plein de perspectives, qui est très stimulante dans la façon de travailler avec l'IA. Première confirmation que vous nous donnez, elle peut être utilisée véritablement de manière opérationnelle et concrète. Et vous y rajoutez finalement une surcouche méthodologique point par point, travaillée finalement au quotidien. Vous vous concentrez sur quels aspects de la spec essentiellement?
Les sujets qu'on a le plus creusés, c'est tous les sujets qui ont lié à au choix des modèles, à la réduction de la taille des modèles, la compression des modèles, au fait de préférer des modèles qui sont plus frugaux, au fait parfois aussi de ne pas forcément utiliser de l'IA générative.
Ouais.
Ça, c'est un peu notre ADN qui est très technique, qui fait ça, mais j'en ai parlé précédemment. On est très attaché aussi à la dimension en amont de ça.
Ouais.
Donc, toutes les bonnes pratiques qui sont liées à l'analyse critique du besoin, s'assurer que le besoin en IA est bien avéré. En fait, nous, on a l'image d'un iceberg. On a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant « on veut faire de l'IA générative ». Bon, mais ça, c'est la surface émergée de l'iceberg. Mais en fait, en dessous, en creusant un peu, on se rend compte que l'IA générative n'est pas forcément nécessaire. Hein, s'il s'agit, par exemple, de classer des mails ou de faire de l'analyse sur les réseaux sociaux, parfois, il y a des modèles, des petits modèles de langage qui marchent bien, ou il y a plein d'autres cas. Sinon, on se rend compte que parfois, il n'y a même pas forcément besoin d'IA au sens large, de machine learning, une automatisation simple, déterministe peut fonctionner. On a pas mal de cas comme ça aussi. Et puis parfois, tout au fond de l'iceberg, on se rend compte qu'il y avait un problème de process ou de communication.
Ou de data, de qualité de data.
Ou de qualité de la data, mais bon, s'il y a des problèmes de qualité de la data, potentiellement, ça va se répercuter, même si l'IA générative a plus de flexibilité, ça va quand même se répercuter sur les projets IA en général. Mais en tout cas, oui, le problème, il est ailleurs, et c'est l'IA générative qui a été un peu le symptôme.
Donc, si je suis une PME, pour une fois, on va pas parler collectivité, si je suis une PME et que j'ai envie de travailler avec vous, comment ça peut se passer? C'est quoi la bonne façon d'aborder les choses?
Alors, le plus naturel, ce serait de passer par un des outils méthodologiques qu'on a créé, qui est le Diag Data IA Frugal.
Ouais.
Donc ça, c'est quelque chose qui est proposé par la BPI. Diag Data IA, c'est un mécanisme subventionné qui permet à des sociétés, des PME et des ETI, d'identifier des cas d'usage IA. Et nous, on a construit notre méthodologie sur ce mécanisme en ajoutant une dimension de frugalité et de responsabilité environnementale. Concrètement, pour chacun des projets qu'on identifie, aux côtés de la faisabilité, du ROI estimé, on a aussi une estimation a priori de l'empreinte environnementale du système qui serait développé.
D'accord.
Et donc ça permet d'avoir une réflexion sur une dimension supplémentaire et de commencer dès le début avec une approche qui est plus frugale. Ce diagnostic data IA va permettre d'identifier des cas d'usage, de comprendre ceux qui sont réellement qui nécessitent réellement de l'IA, et ensuite on va pouvoir passer à potentiellement le développement de ceux qui sont les plus prometteurs. On va commencer on va commencer par des petits projets. S'il y a vraiment un sujet de faisabilité, ça va être un POC. Si on est un petit peu plus assuré qu'on peut apporter de la valeur plus rapidement à MVP, et puis ensuite si tout se passe bien, un passage à l'échelle.
Et tout ça, vous disiez que c'était subventionné potentiellement par la BPI.
Tout à fait.
C'est quoi, c'est 10 000 euros de max et puis subventionné à 40%, c'est ça?
Exactement, ça revient à...
Une fois qu'on a identifié le ou les cas d'usage, comment ça se passe? Il faut vous faites plusieurs scénarios de techniques, ou vous allez sur un scénario qui vous paraît le plus optimisé?
Alors très souvent, quelque chose qui est important, c'est de récolter la donnée pour comprendre quel est le problème. Donc supposons qu'on a bien compris le besoin, on a bien compris, on a parlé avec les parties prenantes, on a bien identifié ce qu'il faut faire, on va regarder la donnée. Et ça va être quelque chose qui va nous permettre de concrètement envisager des choses qui sont possibles. Je peux prendre un exemple assez récent. On nous a demandé de faire le traitement automatique de PDF, de bons de commande qui sont reçus sur une boîte mail.
Oui.
On s'est rendu compte que ces PDF étaient extrêmement bien structurés, qu'il n'y avait que quelques templates, et qu'en fait, on pouvait faire un parsing, donc une extraction de l'information, de manière déterministe, avec un code simple, sans IA, sans machine learning, et donc sans coût de run, en fait, parce que du coup, il n'y a pas besoin de faire appel à des tokens, etc. Donc ça, c'est typiquement le genre de réflexion qu'on a. On va avoir de la donnée qui va arriver, on va se réunir entre nous, on va réfléchir aux possibilités techniques dans le contexte de la donnée disponible, du budget éventuellement, et à partir de là, on va faire des tests sur les techniques qui nous paraissent, les approches qui nous paraissent les plus prometteuses.
C'est marrant, on a l'impression que les acteurs privés, publics, alors qu'on en parle quand même depuis des années de ces techniques, parce que ce que vous évoquez comme technique, c'est des techniques qui existent depuis 10-15 ans, donc on les évoque, elles sont là, elles sont quasiment sur étagère parfois. On a l'impression qu'avec l'arrivée de l'IA générative, avec cette facilité de visibilité de l'IA par l'interface conversationnelle, on découvre que ces technos existent. On vient questionner du coup les spécialistes en disant « Ah ben j'aimerais bien me résoudre un problème. » Et en fait, tout ça était existant. Mm. Donc ça vient un peu révéler des possibilités.
Ouais.
Mais ça vient pas révolutionner. Il y a pas de révolution technologique, au sens où c'est pas né il y a 2 ans. C'est souvent des technos qui existent depuis plusieurs années, qui étaient juste pas utilisés par ces acteurs-là, qui n'en étaient pas conscients d'ailleurs.
Ils se posaient pas la question de l'automatisation de certains process avant l'IA. Après, il y a quand même certaines choses qui peuvent être faites que par l'IA générative et parfois que par des modèles complexes. Faut être réaliste, mais il y a plein de choses, et surtout les choses concrètes qui nous demandent, qui peuvent être faites autrement ou plus simplement.
J'ai l'impression, que les cas d'usage finalement les plus concrets, les plus productifs aujourd'hui, quand on fait un peu la liste des c'est finalement des algos très déterministes, comme vous le disiez.
Ouais.
Assez peu utilisateurs de d'IA générative.
Ou du machine learning tabulaire, des choses qu'on fait depuis 2015 et qui ont apporté des résultats, c'est sympa.
Ou effectivement, à l'époque, c'était moins sexy, ça s'appelait de la data science. c'est forcément moins sexy. Vous disiez que du coup, vous travailliez parfois sur l'optimisation d'un modèle. Alors ça m'intéresse beaucoup, surtout que c'est un de vos cœurs de métier et de spécialité. Comment finalement aujourd'hui on optimise un modèle? Comment vous faites? Essayez de nous expliquer, alors, sans être trop technique, parce que voilà, pour arriver à vous suivre, mais vous avez un cas d'usage à opérer, vous voyez que ce modèle-là, il va pouvoir vous aider, mais ça serait quand même bien d'essayer de l'optimiser. Quelles sont les méthodologies d'optimisation d'un modèle?
Je dirais qu'il y a plusieurs, je le simplifie, mais il y a au moins 2 familles de techniques d'optimisation.
Ouais.
Il y a celles qui vont permettre à un petit modèle de devenir meilleur sur la tâche.
Ouais.
Donc ça, c'est la logique de spécialisation. Donc par exemple, avec du fine-tuning, on va donner de la donnée spécifique du problème qu'a une organisation à l'algorithme, au modèle de...
On le spécialise.
Il se spécialise là-dessus et il devient potentiellement meilleur qu'un gros modèle d'IA générative. Enfin, ça peut être aussi de l'IA générative, en tout cas qu'un gros modèle frontière.
Oui, c'est ça. Un modèle frontière pourrait le faire, ouais. Mais avec des consommations de tokens absolument fous. Alors que là, on vient spécialiser un petit modèle frugal et il arrive à être assez efficace aussi.
Ouais, alors ça marche pas tout le temps, mais ça marche bien quand la tâche est suffisamment homogène. Mais en fait, c'est quand même assez intéressant, parce que quand on y pense, toutes les organisations ont toujours besoin d'un certain degré de spécificité.
Ouais.
Personne n'a besoin d'absolument toutes les fonctionnalités de ChatGPT. Personne, enfin, aucune organisation n'a besoin de s'intéresser aux recettes de cuisine, des conseils médicaux, etc. Donc, fondamentalement, philosophiquement, c'est quand même assez logique que ces modèles sont surdimensionnés.
Et matériellement, vous faites ça comment ? Vous avez des serveurs chez vous ? Vous avez des serveurs privés ? Vous...
Non.
Comment vous faites pour fine-tuner finalement ces...
Non, généralement on passe sur du cloud, mais où on a le contrôle sur la machine. Et on travaille sur des serveurs européens ou français.
Et ça peut durer combien de temps de fine-tuner un modèle comme ça ?
Ça peut être assez rapide, en fait, ça dépend vraiment des cas. Il y a déjà l'étape de collecte de la donnée qui peut être pas négligeable. Mais maintenant, il y a quand même tout un écosystème qui permet de faire assez rapidement ça. Donc ça peut être, en temps de calcul, déjà assez rapide, parce que fine-tuner, ça veut dire qu'on va adapter les paramètres du modèle, mais on va pas tous les adapter, juste un petit bout. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins coûteux que de l'entraînement de base, évidemment, sinon ça serait pas une solution frugale.
Et ça, vous pouvez le faire essentiellement avec des modèles open source ?
Uniquement. Alors, il y a une époque où OpenAI permettait ça, je crois qu'ils ont arrêté, mais c'était un peu bizarre, parce que du coup, on crée un modèle spécifique pour soi, mais on n'en est pas la propriété, ça coûtait plus cher. Donc oui, c'est pour ça, il y a un lien très très fort entre frugalité et open source aussi, parce que faire de la frugalité, c'est faire des communs.
Et là, aujourd'hui, quand vous travaillez sur un modèle open source, vous allez plutôt vers quoi ? Comme modèle à fine-tuner comme ça?
Ça change tous les jours.
Ça change tous les jours. Mais en ce moment...
Dans les bons modèles qui sont assez récents, il y a Gemma 4.
Ouais.
Et il y a Qwen.
Le Gemma 4, c'est celui de Google.
Ouais. Et Google, Qwen, à côté de Gemini, fait des modèles open source qui sont beaucoup plus petits,
ouais,
mais qui sont très performants. Et Qwen. Et puis aussi du Mistral de temps en temps aussi. La logique, c'est aussi de tester les modèles. Et ça, c'est important. C'est pour ça aussi que la frugalité est aussi une bonne pratique de l'IA tout court. C'est que nous, on est systématiquement dans des logiques d'évaluation. Et donc, on va tester plusieurs modèles, on va évaluer, on va voir lesquels ont le plus de potentiel et on va aller dans cette direction-là.
Vous disiez qu'il y avait une deuxième méthode d'optimisation ?
Oui, notre approche générale, c'est plutôt de prendre un gros modèle et de le rétrécir, de le réduire.
Ouais, là, ça, comment on met des coups de ciseaux, comment on fait ?
Ouais, après, ça, le pruning, ça ressemble au coup de ciseaux. Pruning, donc l'élagage, ouais, ça consiste à enlever des bouts qui ne sont pas utilisés par le modèle. Les modèles, il faut les imaginer comme des sortes de un grand réseau,
ouais,
et il y a plein de parties qui ne sont pas utilisées, parce qu'encore une fois, pour la tâche d'intérêt, puisqu'encore une fois, les modèles sont très généralistes. Oui, ça, c'est une des techniques, faire des coups de ciseaux dans le modèle.
Et ça, on arrive à le voir, c'est-à-dire quoi ? Vous regardez le modèle tourner et vous voyez là où finalement ça sert à rien de conserver les bouts de code, les bouts d'algorithme.
C'est basé sur des analyses statistiques généralement.
D'accord.
Bon, il y a plein d'approches et c'est un peu technique, mais on va se rendre compte des poids, donc des paramètres qui
servent à rien,
moins d'importance, ouais, sur la tâche.
Et vous les gommez ?
On les gomme et après, généralement, il faut faire ce qu'on appelle la knowledge distillation. En tout cas, il faut réapprendre des choses au modèle parce que du coup, il a été un petit peu mutilé.
Il a été amputé de bout de cerveau.
Il faut réapprendre, voilà, exactement, ouais, à quand même être bon sur la... Donc, généralement, les deux vont bien ensemble et on arrive à retrouver beaucoup, beaucoup de performance. Mais... C'est pas la première technique, le pruning, c'est celle qui ressemble le plus au coup de ciseau, c'est pour ça que j'en ai parlé. Mais sinon, la principale, c'est quand même la quantification en français. Donc, c'est quand on va faire en sorte, je simplifie, c'est pas exactement ça, mais de faire en sorte que les chiffres qui sont utilisés dans les calculs pour le modèle ont moins de chiffres après la virgule.
D'accord.
Je simplifie beaucoup.
On a une pensée moins riche. On a une
représentation qui est moins riche, mais en fait, quand on fait tous les calculs, tous ces chiffres après la virgule servaient à pas grand chose dans certains cas,
ouais,
et donc on n'a pas des pertes très grosses.
Ok. Si on rentre dans les cas d'usage maintenant, ce que vous avez déjà travaillé, encore une fois avec Terra Cognita, qu'est-ce que les clients vous ont demandé et à des moments où finalement vous êtes dit, bon, mais là, l'IA générative, ça sert à rien. Là.
Ouais, il y a ce dont j'ai parlé tout à l'heure,
ouais,
le traitement de bons de commande, ça marchait bien sans. Nous, on a pas mal travaillé avec l'industrie aussi, Alors, c'était pas que l'IA générative ça sert à rien, c'est qu'un gros modèle d'IA générative servait à rien.
Ouais.
On travaillait beaucoup avec l'industrie et donc là, il y a des enjeux de confidentialité, donc on devait dans tous les cas être avec des modèles qui sont open source.
Locaux du coup. Ouais, en tout cas, maîtrisés.
Exactement, maîtrisés. Pour de l'analyse automatique de plans. Et donc là, on a découpé le problème de manière à ce que, parce qu'en fait c'était assez complexe, il fallait pouvoir d'abord sur les plans identifier les choses intéressantes, comparer, etc. Et en fait, on utilise des modèles non génératifs pour la première partie, pour isoler les parties intéressantes, donc YOLO en l'occurrence. Mmh. C'est des tout petits modèles, quelques millions de paramètres. Et ensuite, un petit modèle d'IA générative qui est calibré sur le problème, qui est expert de...
C'était des plans bâtimentaires, des plans de machines ?
Non, des plans de machines.
D'accord.
Des plans de machines dans l'industrie, quoi.
Et donc, très normalisé quand même, malgré tout ?
Très normalisé, mais bon, il y a quand même, en fait... Il y a quand même toujours des surprises dans la data, quoi qu'il en soit.
Ouais.
Donc voilà, ça, c'est un autre cas où, en fait, on est passé sur une approche qui était beaucoup plus frugale en faisant ces choix-là. En fait, la frugalité, c'est aussi parfois ne pas faire d'IA. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit « Ah, ça serait super d'avoir un chatbot avec lequel je pourrais communiquer pour poser toutes les questions sur la donnée de ma base de données. »
Ouais, base de connaissances, ouais.
Sauf qu'en fait, la base de données, elle est très complexe, pas très bien documentée. Il y a énormément de colonnes, etc. Donc, le risque de faire des erreurs est non négligeable. Mais surtout, la société en question n'avait pas de solution de dashboarding. Par exemple, qui est fait la base pour avoir une visibilité sur... Parce qu'en fait, bon, peut-être que de temps en temps, il y a des questions très spécifiques qui peuvent être posées, mais globalement, c'est souvent les mêmes questions. Et donc, en tout cas, commencer par faire un tableau de bord, ça paraît un peu plus intéressant pour pouvoir piloter et comprendre ce qu'il y a dans les données, quoi.
Plutôt une logique de foire aux questions qu'une logique d'indexation et de requêtage dans un vaste corpus de connaissances.
On était vraiment sur de la donnée numérique. Donc plutôt des visualisations, des graphes.
Oui.
Que des questions pour savoir combien j'ai perdu de clients en tel mois, etc. Quoi.
D'accord. Ça, en fait, on peut c'était ça les questions, effectivement.
Ouais, désolé, c'était pas très clair. Mais
non, c'est très. Ok. Effectivement, du coup, c'est redire. En fait, il y a d'autres façons de présenter une réponse. Et...
À minima, commençons par ça. Ça sera beaucoup moins cher pour vous. Ça sera probablement plus utile. Vous n'aurez pas d'hallucinations, pas de coûts super. Enfin, commençons par ça, au moins.
Vous me parliez aussi d'analyse de réseaux sociaux.
Ouais, sur l'analyse de réseaux sociaux, ça c'était intéressant aussi. On devait pouvoir sur des tweets comprendre quelle était l'intention discursive, quelle était l'émotion, quel était le sujet. Et là, il y avait plein de modèles. On a essayé pas mal de choses, des petits LLM. Mais en fait, c'est des tâches sur lesquelles d'autres modèles de langage plus petits, pas forcément basés sur, enfin pas génératifs, peuvent avoir des très bons résultats. On avait utilisé Camembert, qui est en l'occurrence un modèle qui comprend bien le français.
Ouais.
Et là, l'empreinte, elle était beaucoup, beaucoup plus basse. On avait fait pas mal d'analyses là-dessus et c'était très intéressant. Et les perfs très, très similaires.
Bon, du coup, aujourd'hui, vous continuez finalement à rechercher des cas d'usage, j'imagine aussi un peu originaux pour vous, pour être stimulé. C'est quoi les secteurs d'activité dans lesquels vous aimeriez bien aller faire des petits tours pour voir s'il y a des optimisations à faire?
Nous, on est assez agnostique sur le secteur. Enfin,
oui.
On ne travaillerait pas dans tous les secteurs, mais c'est vrai qu'on préfère travailler sur les secteurs qui ont une finalité positive, environnementale par exemple, l'économie circulaire, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Puis la santé aussi, ça serait. Et là, il y a des choses vraiment assez intéressantes. On va peut-être travailler bientôt sur des cousins des LLM, mais qui travaillent sur les protéines.
Ouais.
Pour pouvoir déterminer le comportement qu'aura une protéine étant donné son code en lettres.
Et ça aussi, ça peut s'optimiser.
Oui, très probablement. Là, c'est pour l'instant des premières discussions, mais c'est des sujets qui nous intéressent et sur lesquels on souhaiterait aller de plus en plus.
Vous me parliez d'archéologie aussi, potentiellement. Ça, c'était plus par passion, c'est ça?
Ça, c'est une passion personnelle, oui.
Ouais. Vous m'avez fait découvrir le Vesuvius Challenge.
Vesuvius Challenge. Il y a des trésors de la connaissance humaine antique qui dorment, entre guillemets, puisqu'ils ont été partiellement brûlés pendant l'éruption qui a détruit Pompéi.
Le Vésuve.
Et on ne peut pas les ouvrir parce qu'on les casse si on les ouvre. Donc il y a des tentatives qui ont été faites au travers des siècles. Et là, actuellement, on se rend compte qu'avec de l'IA, on arrive à pouvoir
On peut les scanner.
Sans les ouvrir. Et on arrive à. Et il me semble qu'il y a deux semaines, on a annoncé qu'il y a un premier texte complet, si je dis pas de bêtises, qui a été scanné ainsi.
Donc, ouais. Écoutez, merci beaucoup, Amiel, pour ce partage. J'espère qu'on a donné envie à nos auditoristes de venir vous voir pour vous proposer des sujets, de comprendre que vous leur répondrez pas forcément IA générative à chaque fois, ou qu'en tout cas s'il y a des modèles, ils seront forcément en recherche d'optimisation. Merci beaucoup pour ce partage.
Merci beaucoup à vous.
Et merci à vous, chers auditeurs. Si cette émission vous a plu, usez de votre grand pouvoir, likez cet épisode, manipulez les algorithmes pour nous aider à diffuser ce contenu plus loin. Allez, restez sur 93.1 FM, sur Cause Commune, et on se dit à bientôt.